Bon, merci Jean-Michel de me donner cette occasion de parler de l'islam et de ce qui fait cette religion, à savoir le Coran. Parce que l'islam, c'est d'abord un livre. Bon, je me sens un peu chez moi parce que je vois des visages qui me sont chers. Hein, que ce soit. Ce que je vais faire ce soir, parce que c'est très complexe, je passe mon temps d'abord avec les musulmans pour leur expliquer le Coran. Alors, je commence toujours par les musulmans. Parce que ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est l'apport des musulmans avec le Coran. Donc je vais donner plutôt des clés de compréhension et des lectures, c'est pour ça là d'ailleurs j'ai amené avec moi aujourd'hui l'ouvrage de M. Aubrou, une étude pertinente, il l'a appelé les clés de lecture, parce que ce sont des clés. D'ailleurs le Coran est composé de ce qu'on appelle ayat, hein, je parle sous l'autorité de Mouna, ayat veut dire signe, et faire signe, donc tout n'est pas dans le Coran, parce que vous avez trois révélations. Quand on dit l'islam, ou le judaïsme, ou le christianisme, du point de vue du Coran, ce sont des révélations. C'est-à-dire, Dieu se révèle. Il se révèle par sa parole. Dans le christianisme, il se révèle à travers Jésus. Voilà, hier on était au séminaire des prêtres et des imams. Donc, pour vous dire en même temps, la proximité, et je vais essayer de vous parler en langage audible. Tout le travail qu'on fait aujourd'hui avec M. Aubrou, et je crois que l'avenir de l'islam dépend de ce cadre, c'est que si on ne pense pas l'islam en français, on ne pense pas l'islam dans la culture française, il n'aura pas sa place. Et parler de l'islam en français, ou penser l'islam en français dans la culture française, il pose deux choses. La maîtrise de la laïcité et la maîtrise de la catholicité. S'il y a des protestants, c'est la même chose. Donc il faut parler de la proximité. La proximité, il y a beaucoup de rassemblances entre les chrétiens, les juifs et les musulmans, mais bien sûr, cela ne suppose pas le syncrétisme. Il y a des différences. Donc si Dieu se révèle à travers Jésus, il s'est fait chair, dans le Coran, Dieu s'est fait l'être. Donc le Coran, la définition théologique du Coran, c'est un Dieu qui se révèle par sa parole. Bien évidemment, on ne va pas rentrer dans les débats théologiques, c'est très compliqué comment Dieu parle. Donc, ontologiquement, la parole de Dieu est insaisissable. Mais elle s'est fait lettre. Par contre, la lettre arabe, ou la lettre hébreu pour la Torah, ou l'araméen pour l'évangile, ce sont des lettres humaines. D'accord? Sont créées par Dieu. Donc, quand on dit le Coran, Dieu se fait connaître par sa parole révélée à un prophète qui s'appelle Mohammed, ou qui s'appelle Jésus ou qui s'appelle Moïse à travers la Torah. Donc c'est ça la définition du Coran en langue arabe qui veut dire « li »,« ikra », c'est-à-dire « li ». Donc Dieu nous envoie des signes à travers une lettre, mais à travers aussi un modèle, c'est le deuxième texte de l'islam qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire le modèle prophétique. Donc on a deux textes, par ordre de priorité vous avez le Coran, d'accord, on l'appelle mutawatir, il est authentique, authentifié, dit vivant du prophète lui-même. On va parler tout à l'heure de notre ami Michel Onfray, hein, qui croit que le Coran a été écrit après le prophète, d'accord, alors qu'on sait très bien les baïbas des études coraniques, c'est que le Coran a été authentifié, dit vivant, dit prophète. Il y avait des scribes connus, on a toute l'orthographie. J'ai même dans ma bibliothèque les textes originaux, ou plutôt une photocopie des textes originaux. Parce que l'arabe que vous voyez aujourd'hui avec des voyelles, l'arabe du prophète, il n'y avait pas de voyelles. Donc jusqu'à présent, dans l'ouvrage d'Hamidullah, j'ai une partie de ce texte. Sur le plan archéologique, on peut prouver que ce texte a existé. Sur le plan archéologique, et ce n'est pas moi, c'est des archéologues, voire même non-musulmans qui l'ont pris. Donc le Coran a été authentifié du vivant du prophète, écrit du temps du prophète, et parce qu'on va parler de la femme en islam, il a été entre les mains d'une femme. C'est pour cela qu'on appelle le Coran de Hafsa, qui est la femme du prophète, fille de Omar. C'est elle qui avait cet exemplaire écrit en papier 30 ans après la mort du prophète sous Othman. C'est pour cela qu'on l'appelle le Coran de Othman, mais Othman n'a pas de Coran. C'est simplement le travail a été fait sous son mandat. Donc c'est une femme. C'est entre les bras d'une femme que le prophète a reçu la révélation, au sens métaphysique du terme. C'est entre les mains d'une femme que le premier texte a été conservé. D'accord ? Et cet exemplaire existe toujours aujourd'hui, je crois, en Azerbaïdjan. Vous avez aussi au musée de Londres et à Istanbul. Au musée d'Istanbul, vous avez encore un exemplaire de ce Coran au sens archéologique du terme. Et puis vous avez le texte, la sunna. Par contre, la sunna, ou le modèle prophétique, ou un arabe on dit les paroles du prophète, c'est à peu près les équivalents des évangiles. C'est le prophète inspiré par Dieu. Sauf que le travail de compilation des paroles du prophète n'a été fait qu'au début du 8e siècle. Ce qui fait que toutes les paroles du prophète ou tous les textes du prophète ne sont pas authentiques. D'accord ? Sur les 700 000 paroles du prophète collectées par les spécialistes comme Muslim, Bukhari, sont connues, l'ouvrage aujourd'hui utilisé dans tous les pays musulmans qui s'appelle Bukhari et Muslim, il y a à peu près 4400 paroles sur 700 000 collectées. Donc pour vous dire un peu l'exigence de l'authenticité du texte. Donc voilà pour l'histoire du texte et un peu la compilation du texte. Maintenant le contenu du texte, le Coran comprend 60 chapitres, qu'on appelle sourate, et 4200 versets à peu près. D'accord. Le Coran est psalmodié par le musulman au sens spirituel du terme. C'est pour cela quand on dit le Coran en langue arabe. Il n'y a pas de Coran en français ou Coran en chinois. Ce sont des traductions humaines. Donc ils n'ont pas la sacralité. Alors la sacralité des textes ne concerne que son côté spirituel. Là on est dans les métaphysiques, on est un peu dans le domaine des esprits, ça ne nous concerne pas. Mais les musulmans lisent le Coran en langue arabe pour imprégner leur esprit. D'accord ? Parce qu'il y a le mystère dans la lettre. C'est comme un chrétien qui communie avec Jésus à travers Dieu incarné dans Jésus ou venu sous forme de chair. C'est quelque chose qui relève de l'esprit et qui ne relève pas du domaine rationnel. Par contre, la sacralité ne concerne pas l'interprétation du texte. Parce qu'une interprétation n'est pas sacrée. C'est pour cela que le meilleur travail de traduction, à ma connaissance en français, a été fait par un non-musulman qui s'appelle Jacques Berck. Une référence, je vous conseille la traduction. C'est pas parce que tu n'es pas musulman que tu n'accèdes pas au texte. Au contraire, c'est une question d'intelligence, c'est une question de raison. Donc par contre, l'interprétation ou la traduction n'est pas sacrée. Parce que j'entends souvent, le Coran est tellement sacré pour les musulmans qu'on ne peut pas le toucher. Sinon, à quoi ça sert que Dieu se révèle ? Il se révèle d'abord à l'humain. 60 chapitres, 4200 versets. Alors le Coran parle de quoi ? Les thèmes du Coran. Alors, généralement, y compris chez les musulmans et les non-musulmans, quand ils lisent le Coran, ils vont directement à l'aspect normatif. Ils vont chercher que dit le Coran de la femme, que dit le Coran de la charia. Donc là aussi, ce soir, il faut aussi revenir sur ces termes et corriger un peu les préjugés chez les musulmans et chez les non-musulmans. La charia ne veut pas dire la loi. La charia veut dire la voie. Mais le Coran parle peu de loi. Ça, c'est la Torah. Et d'ailleurs, le côté normatif du Coran ne diffère en rien des lois hébraïques. C'est la même chose, sauf qu'ils sont assouplis dans le Coran. Sur les 4200 versets du Coran, il parle de Dieu. Comme Dieu, chez les chrétiens, a envoyé son Fils, on ne va pas limiter Jésus à la loi, ni au Shabbat, ni aux lois hébraïques, parce qu'il était juif. Ce qui nous intéresse dans Jésus, c'est d'abord l'esprit, c'est d'abord son message, c'est d'abord cet amour qu'il est venu répandre dans le monde. Donc la même chose dans le Coran est parole de Dieu, donc il parle de Dieu. Et on peut compter le nombre des versets qui parlent de Dieu et le nombre des versets qui parlent de la loi. À peu près 5% du Coran concerne la loi. Donc dans le Coran, il parle de Dieu, de ses noms et de ses attributs. Vous avez un chapitre que tous les musulmans lisent dans leur prière, qui est l'équivalent de notre Père, qu'on lit quotidiennement. Le chapitre 1. Alors, il faut faire un peu attention aux traductions, parce qu'elles sont toujours approximatives. Ce verset, ou plutôt ce chapitre, composé de 7 phrases, 7 versets, est le meilleur du Coran. D'ailleurs, le prophète le qualifie de la matrice du Coran. C'est pour cela qu'on le lit tous les jours dans la prière. Et il parle de quoi, ce verset ? Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. La preuve que Dieu existe. Ça commence par une prière que les musulmans disent Alhamdulillah. Vous entendez souvent les musulmans Alhamdulillah. D'accord ? Bien sûr, beaucoup de musulmans ne connaissent pas très bien le sens parce que c'est un sens d'abord au sens théologique du terme. C'est-à-dire, si tu veux croire en Dieu, pense à ce qu'il te donne, à ses bienfaits. Et quotidiennement, on est dans un océan de bienfaits de Dieu. Ne serait-ce que le fait de respirer. Généralement, avec l'habitude, on banalise, ça devient un peu quelque chose de banal, de respirer, de marcher, de dormir, etc. Alors, c'est pour ça que le musulman dit « Alhamdulillah », c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, Dieu a demandé à Moïse quelle est la meilleure pédagogie dans le récit coranique. Comment parler de Dieu, disait Moïse à Dieu. Comment parler à mon peuple, lui dit, rappelle les bienfaits de Dieu. Tout simplement comme preuve de son existence, et pour cela, Alhamdulillah. Cette sourate parle aussi d'un attribut d'essence. Vous savez, Dieu a des noms et des attributs. Un langage humain. Comme Dieu est insaisissable, il s'adresse à l'homme. Donc il lui parle en langage humain. Les chrétiens disent, Dieu est amour. L'homme est capable d'amour aussi. Sauf que l'amour de Dieu est inépuisable. Il est absolu. D'accord ? La même chose dans le Coran, il parle plus de l'amour, il parle de l'affection. Parce qu'on traduit souvent Rahman, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dans la majorité des traductions françaises, ils traduisent Rahman par miséricorde. Dieu de miséricorde. Moi, j'ai rajouté, en pensant à l'islam en français, tu demandes à n'importe qui, la miséricorde veut dire quoi ? Veut dire le pardon. C'est ça. Quand on dit Dieu est miséricorde, Dieu est pardon. Alors que la Rahman, ce n'est pas le pardon. Le pardon en langue arabe, c'est, n'est-ce pas, Mouna, c'est Al-Ghafour. Al-Maghfira, c'est un autre nom. Le Rahman veut dire un Dieu d'affection. C'est pour cela, pour ceux qui s'intéressent au statut de la femme en islam, Dieu se révèle avec un attribut féminin. C'est l'utérus, c'est la matrice. Donc c'est un Dieu d'affection, c'est plus qu'un Dieu d'amour. Parce que l'amour, il est toujours intéressé. On attend un retour. C'est pour cela qu'on le voit aujourd'hui dans nos sociétés, ça monte et ça descend. Alors que l'affection, elle est plus ou moins instinctive. C'est pour cela qu'on dit qu'Ar-Rahman est un nom d'essence. Dieu est affection. Dieu est toujours là pour nous. D'accord ? On raconte que Abraham, vous savez, Abraham est connu par sa générosité. Très généreux. Et un jour, il a reçu quelqu'un au dîner et la personne lui a dit qu'il est athée et il lui a raconté ses péchés. Donc, il a dit, je ne vais plus jamais te recevoir tant que tu ne cesses pas de commettre des fautes. Et Dieu a révélé à Abraham cette personne athée, ou qui se dit athée, parce que pour nous, les croyants, l'athéisme est un peu une construction intellectuelle. Bon, c'est un autre débat. Parce que l'homme est naturellement croyant. Et Dieu a révélé à Moïse, a inspiré à Abraham, cette personne athée qui continue à commettre des fautes et je ne cesse pas de lui donner des faveurs, je l'accepte par affection. Parce que instinctivement, je suis affection. Naturellement, je suis affection. Et toi, tu oses ne pas l'accueillir, donc ne cesse pas de faire ça. Et cette personne a dit, c'est Dieu qui me donne tant de faveurs et malgré ça, je continue à se rebeller contre lui, est un Dieu d'affection qui mérite qu'on y croit. Donc, l'affection, elle est plus ou moins gratuite. D'accord ? Gratuite. Donc, Dieu est affection. Donc, le Coran parle d'abord de Dieu, de ses noms et de ses attributs. Le deuxième thème majeur du Coran, c'est pour cela les premiers chrétiens d'Orient considéraient les chrétiens, l'islam comme une secte chrétienne. Les chrétiens de l'Arabie ne considéraient pas l'islam comme une nouvelle religion. C'est une secte. Parce qu'il y avait cette rassemblance avec la Bible, avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que le Coran reprend la majorité des récits bibliques. Vous commencez par le récit d'Adam et Ève, le récit de Noé, les déluges, le récit de Moïse, de Salomon, de Jacob, tous les récits. Tel point que les premiers chrétiens, ils ont dit Mohamed a plagié la Bible. Sauf que là où le Coran marque sa différence, c'est la réforme. J'ai dit souvent, l'islam est une réforme du christianisme et du judaïsme. Ce n'est pas une nouvelle religion. Comme les protestants vont réformer le catholicisme, le protestantisme est un peu la troisième étage. Un peu. Voilà. C'est juste on est dans la même lancée. Mais quand on fait une approche comparée des récits bibliques et des récits coraniques, vous trouvez un peu une légère différence. Et je vais citer quelques exemples. Pourquoi j'ai dit ça ? Pour rompre un peu avec cette approche conflictuelle des religions. D'accord ? Il s'agit de la même source, Chez les mystiques musulmans, ils disent il y a la parole éternelle de Dieu, ce qu'on appelle l'ohl mahfouz. Ah, il y a le mon père Nabil, il est là. Salam. Vous m'honorez par votre présence, je ne vous ai pas vu. Donc je parle aussi sous votre autorité. Hein. Il y a ce qu'on appelle Nabil al-Lawhul Mahfouz, c'est la table protégée, parole infinie de Dieu, qui se révèle au fil des siècles selon les cultures et les civilisations, tout simplement. Donc c'est la même parole. D'ailleurs, on voit que la Torah correspond un peu à l'anthropologie du peuple d'Israël de son époque. Donc chaque, c'est la même parole de Dieu. Donc, c'est le même récit dans la Bible et dans le Coran, sauf que le Coran introduit une réforme dans, parce que le, d'ailleurs, les évangiles, c'est la parole des apôtres inspirée par Dieu. Et d'ailleurs, notre Père nous l'a dit hier, chaque apôtre écrit l'évangile selon son contexte anthropologique, historique du moment. Donc, l'homme peut introduire ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, donc il peut se tromper. Ça reste un peu, c'est comme les hadiths du prophète, à peu près. C'est pour cela que le Coran est venu rétablir ce que l'homme n'a pas compris ou mal interprété. Vous ne trouverez pas dans le Coran un verset qui dit aux juifs, aux chrétiens, vous dites faux. Ce n'est pas la méthode coranique. Vous avez mal compris, vous avez mal interprété, ce n'est pas comme ça. Vous exagérez. C'est le langage un peu coranique. La taqlou fi dinikum. N'exagérez pas, ne dites pas. Mais il y a une part de vérité. C'est ça la pédagogie coranique. Prenons le récit d'Adam et Ève, pour vous donner un peu ce que le Coran introduit comme réforme par rapport au récit biblique. Et certains commentateurs musulmans ont repris les récits bibliques dans leurs commentaires du Coran. Pour vous dire un peu qu'il y, a, il y avait toujours cette interaction entre les gens des livres et les exégètes musulmans. Vous me corrigez, hein? Okay. La Bible dit que, enfin, est-ce que c'est l'interprétation de la Bible, que Ève est créée de la côte d'Adam. C'est ce qu'on entend souvent partout, même chez les musulmans. Bien, le Coran introduit une légère interprétation. Il dit non. Dieu, Adam dans le Coran, c'est l'être humain. Par contre, Dieu a créé Adam et Ève au même moment. Au même moment. D'ailleurs, la Torah dit a créé Ève à côté d'Adam. D'accord ? Khalaqakum min nafsin wahida. Il vous a créé de la même origine, en précisant que l'âme humaine n'est ni masculine ni féminine. Donc la question du genre dans le Coran, c'est notre interprétation contemporaine aujourd'hui, parce que le Coran se lit aussi en fonction du contexte dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, on parle de la question de parité, la question du masculin et féminin. Pour le Coran, cette question ne concerne que le biologique. Ça c'est mon exégèse à moi, si vous voulez, avec toute modestie, en s'inspirant des travaux de Tarkobrou, parce qu'on lit le Coran en fonction des problèmes de la société contemporaine. L'âme n'est ni masculine ni féminine. Et ce qui fait la grandeur de l'homme, ou ce qui fait son humanité, c'est cet esprit soufflé en Dieu au 40e jour de la grossesse. Donc, ontologiquement, dès le départ, l'homme est l'égal de la femme. Il n'y a pas de. S'il y a inégalité, on va le voir dans la loi du Coran, c'est le contexte historique et sociologique. Si le contexte historique change, on revient au verset de principe, c'est-à-dire l'égalité de principe. Voilà une légère différence que le Coran introduit dans le récit d'Adam. Autre chose, il n'y a pas de péché originel. Le Coran dit très bien que Adam et Ève, c'est pas Ève qui a commis la faute, les deux, ils ont mangé du fruit interdit. Bon. Le Coran précise que la faute n'est pas originelle, il n'y a pas de péché originel, il y a d'abord la bonté originelle. Parce que vous le savez très bien, même dans le récit biblique, Dieu a créé Adam et Ève. Bon, la faute est venue après. Donc, dès nos origines, on est bon. C'était le débat d'hier, est-ce que l'homme est bon ou mauvais? Il est foncièrement bon pour les musulmans, ou plutôt pour l'approche coranique, mais il tend vers le mal. Ça aussi, c'est une précision que le Coran introduit. La même chose, le récit de Noé. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Moi, j'ai vu le film de Noé, il est pessimiste. Vraiment, c'est tout le contraire du récit coranique. Il n'a sauvé que les animaux. Il a désespéré de l'être humain. Alors que dans le Coran, le récit de Noé, c'est vrai qu'il y a eu le déluge, mais avec Noé, il y a eu quand même des êtres humains, hommes et femmes. Donc, c'est-à-dire que l'homme, même au temps de Noé, même s'il y a l'incroyance qui domine, il y a toujours un espoir que l'homme revient vers Dieu. Le récit d'Abraham aussi occupe une place importante dans le récit coranique, mais là, la petite différence que le Coran, ou la petite réforme que le Coran introduit par rapport au récit biblique, c'est au niveau du sacrifice. C'est que dans la Bible, que ce soit la Torah ou l'Évangile, Dieu a inspiré, a révélé à Abraham de sacrifier son fils. C'est ça. Isaac ou Ismaël. Le Coran dit, peu importe qu'il soit Isaac ou Ismaël. Dans le Coran, c'est un rêve. Parce que Dieu ne demande pas l'impossible. Dieu ne demande pas à quelqu'un de tuer son fils. J'ai vu en rêve que je vais te sacrifier. D'accord? Donc, c'est pas. Par contre, l'idée de la substitution d'un mouton à la place du fils est une révélation explicite. Autrement dit, l'islam veut mettre fin à une pratique païenne de l'époque qui veut que les enfants, que les familles offraient à leur divinité leurs enfants. Même le père du prophète lui-même a failli être sacrifié au nom de cette tradition païenne. C'est ce qu'on dit aujourd'hui à nos fous, parce que c'est pas des... On les appelle des djihadistes, vous savez, les médias fabriquent chaque fois un nouveau mot, ils appellent les djihadistes, etc., qui vont s'étiller au nom de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on se suicide pour lui, ou au contraire, Dieu veut qu'on vit. D'accord? Et d'ailleurs, les martyrs chrétiens, ce ne sont pas des gens qui se tuent, ce sont des gens qu'on tue. Jésus a été tué et n'a pas cherché la mort. Et les martyrs chrétiens ne cherchent pas la mort, ce sont des gens qui veulent vivre pour leur foi et qui sont victimes d'injustice. C'est ça la même notion de martyr en islam. L'islam ne cherche pas qu'on meure pour Dieu, il cherche qu'on vit pour Dieu. D'accord? Donc c'est la mort civile, injustement, qui fait qu'on est martyr. C'est pour cela, dans la théologie musulmane, même la femme qui meurt au moment de l'accouchement, elle a le statut de martyr. Donc, c'est une mort subie, et non pas une mort qu'on cherche. Ça s'appelle le suicide, et toutes les religions l'interdisent. Donc voilà, donc le Coran parle de Dieu, parle de ses prophètes, de tous ses prophètes. On ne fait des différences avec aucun prophète, ce sont tous nos prophètes, que ce soit Jacob, que ce soit Salomon, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse. Après, le Coran consacre un long chapitre qui s'appelle le chapitre de Marie, surat Maryam, à Jésus et à Marie, pour un peu réformer, parce que M. Aubrou va bientôt faire sortir un ouvrage qui s'appelle la Trinité à la musulmane. Et ça choque d'abord, on va voir, les musulmans sont les premiers à nous excommunier. À condition qu'on définisse qu'est-ce qu'on attend par la Trinité. C'est exactement ce que dit le Coran. On reprend les mêmes mots, mais on leur donne un contenu théologique réformé. Parce que le Coran parle de verbe de Dieu, kalam. Il parle de l'esprit, ruh, et ruh al-Qudus. D'accord, même les chrétiens d'Orient parlent de ruh al-Qudus, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc c'est les mêmes termes. Sauf que le Coran dit aux chrétiens, dans votre interprétation, vous exagérez. Il y a Jésus, verbe de Dieu, effectivement, mais c'est un verbe d'acte. Toute la différence est là. Chez les chrétiens, Jésus est un verbe d'essence. Dans le Coran, c'est un verbe d'acte. C'est-à-dire Dieu a créé Jésus. D'une manière miraculeuse, disent les scientifiques aujourd'hui, alors que tout est miracle, simplement aujourd'hui nos miracles, on les banalise. Mais c'est vrai que Jésus, dans le Coran, n'a pas de père. D'accord? Où il y a le père symbolique, bien sûr, c'est Dieu. Comme nous tous on dit, notre père, c'est-à-dire au sens symbolique du terme, mais c'est un verbe d'acte. Quant à l'esprit dont parlait le Coran, c'est l'âme. L'âme humaine soufflée au 40e jour de la grossesse. Hein? Et c'est ce qui fait d'ailleurs, qui donne un sens à notre existence. Le Saint-Esprit dans le Coran, c'est l'ange Gabriel. Mais dans mes débats interreligieux avec les catholiques, j'ai appris aussi une autre dimension, pour vous dire que le dialogue interreligieux est extrêmement important, parce que c'est dans l'altérité aussi que tu te comprends toi-même. Parce que beaucoup de musulmans aussi considèrent qu'en disant Jésus est un prophète humain, vous le réduisez à un être humain. Et dans mon dialogue fraternel avec les catholiques, j'ai appris que Jésus est un être humain, mais pas comme nous. En quelque sorte, si vous voulez une parabole, c'est un corps dans un esprit. Un corps dans un esprit. Alors que nous sommes esprits qui habitent le corps. C'est pour cela qu'on est soumis à nos passions, on est soumis à nos désirs. Et d'ailleurs, c'est là le rôle de la révélation. Alors que Jésus n'est pas de notre monde en quelque sorte. Et ça, je ne l'ai pas appris, bien sûr, dans les dialogues, mais en revenant à un catholique connu qui s'appelle Massignon, a écrit un très bon ouvrage sur la passion d'Al-Hallaj. Là, c'est un grand mystique musulman, et sa figure de référence était Jésus. Donc, les prophètes, au fait, ne sont pas de notre monde. C'est pour cela que j'ai dit souvent aux musulmans, réduire le prophète à la polygamie ou à la guerre, c'est pas connaître ce que signifie un prophète. C'est vrai que c'est un être humain qui mange, qui boit, qui se met en colère, qui dort, mais ils ne sont pas de notre monde. Même nous, quand on meurt, c'est l'esprit qui domine. Donc Jésus, effectivement, il a une mère, il mange, il boit, il dort, mais ce n'est pas un être humain comme nous. Donc il y a bien l'esprit, il y a bien le Verbe, il y a bien le Saint-Esprit, mais par contre, Jésus ne vient pas de l'essence de Dieu. C'est là la démarcation dogmatique, en quelque sorte, avec le christianisme. Donc voilà, le Coran parle d'abord de Dieu, de son prophète, et de ce qu'on appelle, de ce qui fait l'essence de toute religion, c'est-à-dire le domaine des croyances. Cherchez la loi dans le Coran, ou cherchez des normes dans le Coran, vous n'avez rien compris. Vous n'allez rien comprendre. On cherche plutôt en sens. Par contre, ça c'est une clé importante pour comprendre le Coran en langue arabe. C'est-à-dire qu'il a été révélé dans une culture, dans une anthropologie. Tout le problème, y compris chez les spécialistes musulmans, les savants musulmans, c'est quand il y a une confusion entre le sens, entre le principe et sa couverture anthropologique. Même le mot Allah, dans le Coran, c'était la langue arabe. Aujourd'hui, nos frères chrétiens d'Orient, ils disent Allah. Parce qu'il leur parle dans leur langue, dans leur culture. Allah veut dire, dans la langue arabe, celui qui nous protège, affection ou insaisissable, transcendant. Donc ne pas confondre la culture arabe ou l'anthropologie arabe du moment coranique avec le Coran. C'est pour cela, dans mes études aujourd'hui de sciences politiques et sur notre modèle de laïcité, dire le monde musulman au sens religieux, théologique du terme, n'a pas de sens. N'a aucun sens. C'est quand vous dites le monde chrétien, ça n'a pas de sens. Jésus est un esprit, l'évangile est un esprit qui circule dans le monde. D'ailleurs, la plus grande population chrétienne, c'est en Amérique latine, c'est pas en Europe. Donc le monde chrétien, peut-être vous dites le monde chrétien au sens culturel du terme, oui. D'accord ? Mais le berceau du christianisme, c'est en Orient. Donc le monde, vous dites peut-être, des territoires à majorité de religions ou de cultures musulmanes, ça passe. Mais le monde de l'islam ou le monde musulman, ça n'a pas de sens, parce que c'est un esprit qui circule dans le monde. Donc le Coran parle de Dieu, parle de ses prophètes, c'est un message qui donne un sens à notre vie. Pourquoi j'existe? Est-ce que Dieu existe? Quelle est la signification du bonheur? Que signifie la question de la souffrance? Que signifie la question des épreuves? Etc. Ça donne un sens à notre vie par rapport à Dieu. Hier, j'ai discuté avec un musulman qui n'arrive plus à prier pour donner un sens à sa prière, à la prosternation et à sa foi. Eh bien, la réponse est dans le Coran. C'est que le Coran dit à l'homme, on ne peut pas se passer de Dieu. Il existe. Appelez comme vous voulez, Allah, Dieu, ou le Père, ou le Saint-Esprit, ou l'architecte suprême, il y a une force, il y a plutôt une affection et un amour qui gouvernent ce monde. Et la seule créature qui est capable d'accepter cet amour ou cette affection ou de le refuser, c'est l'être humain. Parce que l'univers croit, l'univers prie. Et le sens de la prosternation en islam ou le sens de la foi en islam symbolisé par la prosternation, c'est se mettre en orbite, c'est-à-dire connecter avec Dieu. Donc le Coran est un livre de sens, un livre qui donne un sens à notre vie. Et puis effectivement, vous avez un aspect normatif, parce que la foi ou le royaume de Dieu, c'est d'abord sur terre. C'est sur terre qu'on construit le royaume de Dieu. On parlait hier des désirs et des passions. Ce qui nous éloigne de Dieu ou de notre nature croyante, c'est quand on se laisse dominer par ses désirs et ses passions. D'accord ? Le Coran était là pour nous purifier en quelque sorte, pour garder l'esprit saint. D'accord ? Et c'est ça l'objectif de la norme ou de la pratique. Sauf que dans la pratique musulmane, parce que je vois aussi même la confusion chez les musulmans qu'on appelle la charia, donc vous avez la croyance en Dieu, à ses prophètes, à la question du salut. J'ai oublié que le Coran parle aussi du salut. Qu'est-ce qui se passe après la mort? La notion du paradis. Oui, l'enfer existe. Mais le Coran précise très bien qu'à l'enfer, pour reprendre mes propres termes, est un accident. Dieu, s'il est amour, s'il est affection, il ne veut pas que les gens souffrent. D'accord? Donc l'enfer est un choix humain. Sauf que par affection, l'enfer n'est pas éternel. Même à travers l'enfer se manifeste l'affection de Dieu. C'est comme la maladie, c'est comme la fièvre. S'il n'y a pas la fièvre, comment on va? La fièvre indique la maladie. Donc la fièvre ou la douleur est une miséricorde de Dieu, est une affection de Dieu. La même chose, puisque le salut est universel, d'accord, l'enfer n'est pas éternel. Donc ça aussi, on le trouve dans le Coran. Donc vous avez un aspect pratique dans le Coran qu'on appelle la charia, c'est-à-dire la voie qui mène vers Dieu. C'est ça, charia. Charia, c'est-à-dire prendre le chemin. C'est tout le contraire de ce qu'on attend chez les talibans, chez la Somalie, l'application de la charia. Même chez les musulmans, quand il dit l'application de la charia, c'est couper la main du voleur, etc. J'ai discuté, parce que vous savez, je suis aumônier, avec un radical en prison. Il me dit, moi je vais aller dans un pays qui applique la charia. Je lui dis, très bien. Si tu vas dans un pays où on applique la charia, avec la peine que tu as fait, on va te couper ta main. Donc il vaut mieux que tu restes dans la France qui applique la charia. Parce que la charia de la France est plus clémente que la charia d'Arabie Saoudite. Parce que tu as ta chambre, tu as une bibliothèque, tu manges tous les jours, tu fais ton sport. Hein? Donc c'est ça la charia. Faites-la. La prison, elle est faite pour l'insertion. Pour que tu retrouves, tu penses un peu. Donc c'est ça la charia au fait. Parce que la charia, c'est la justice. Tout simplement. C'est pour que l'homme retrouve un peu sa dignité humaine. Donc la charia, c'est pas la loi pénale. La charia, c'est d'abord la voie qui mène vers Dieu. Et la première pratique qui mène vers Dieu, c'est la prière. La même chose, les pays qui appliquent la charia, c'est aussi la France. Parce qu'une fois, dans les coulisses d'une émission télé, les journalistes me disent, mais entre nous, là, ton discours, c'est beau, c'est bien, il rassure, mais une fois que vous serez majoritaire en France, vous allez appliquer la charia. Je lui ai dit, la charia, elle est déjà appliquée en France. Il m'a dit, comment? Je lui ai dit, la loi 1905. L'article 1, l'État garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Et l'aspect le plus important en islam, c'est le culte. Donc c'est la charia déjà à 98% appliquée. Parce que ce qui fait que je suis musulman, c'est de pouvoir croire et prier. Et ça, la République le garantit. Ce qui n'est pas garanti en Arabie Saoudite. Tu n'as pas le droit d'être athée en Arabie Saoudite. D'accord? Ni de construire des églises. Alors que le Coran aussi garantit la liberté de conscience. Que celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. D'accord? Même dans la propre famille du prophète, il y avait des polythéistes, il y avait des gens. C'est pour cela le combat pour la foi ou le combat pour imposer la foi n'a aucun sens. Aucun sens. Ni sur le plan de la raison humaine, ni sur le plan de nos textes. D'accord? Donc la charia, c'est d'abord la prière. Les cinq prières, le jeûne du mois du Ramadan, le pèlerinage à la Mecque et l'aumône. Voilà la pratique la plus importante. Et puis vous avez bien sûr un aspect normatif. Alors l'islam ne change rien à la Bible. Les mêmes lois hébraïques, d'où d'ailleurs la rassemblance et la proximité au niveau des normes entre le judaïsme et l'islam. Et je dirais même les chrétiens, parce que les premiers chrétiens étaient juifs. C'est Saint Paul qui a relativisé un peu l'aspect normatif. Parce que le christianisme est devenu une religion un peu universelle, donc il fallait assouplir, voire même ne pas s'intéresser trop à la norme et donner plus d'importance à l'esprit. Mais les premiers chrétiens et les premiers apôtres qui étaient juifs appliquaient les lois hébraïques. Que ce soit au niveau du jeûne, que ce soit au niveau du respect des Shabbats, que ce soit au niveau des normes alimentaires. C'est vrai que la Bible parle, la Torah parle de rites alimentaires, l'islam parle de normes alimentaires. Sauf que l'islam est venu alléger. Et je vais prendre un seul exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les rites de purification chez les juifs. Non. Vous savez, comme dans toute religion, chez les chrétiens, la symbolique de l'eau. D'accord ? La symbolique de l'eau. Avant de prier, on se purifie avec de l'eau. D'accord? On est dans le domaine du symbole. Parce que c'est, comme a dit très bien Saint Paul, c'est l'esprit qui compte. Mais tout être humain a besoin de symboles. On a besoin de toucher, on a besoin de rites, on a besoin de matérialiser un peu nos sentiments, d'accord, et notre foi. Donc pour prier, on se purifie avec de l'eau. Je lave avec de l'eau, etc. Pour les juifs orthodoxes, c'est très difficile le rite de purification. Très difficile, surtout pour les femmes. Surtout pour les juifs orthodoxes, vous savez, les femmes après la fin du cycle, où l'homme et la femme après le rapport sexuel, ils doivent se purifier avec de l'eau. D'accord, se laver avec de l'eau. Chez les juifs orthodoxes, ça se fait à la synagogue et de préférence avec l'eau de pluie. Alors là, si vous imaginez, c'est pas évident. D'accord. Alors l'islam est venu dire, tu peux faire la purification là où tu es, que ce soit avec l'eau de mer, ou avec l'eau de pluie, ou avec l'eau de rivière, et si tu ne trouves pas de l'eau, tu prends une pierre. Ça s'appelle tayammum. Donc c'est pour, au fait, pour dire, la purification n'est qu'ensemble. Par contre, là où l'islam précise très bien, parce que aussi dans le judaïsme orthodoxe, je dis bien orthodoxe parce qu'il y a plusieurs courants dans le judaïsme, la femme, quand elle a ses règles, elle est impure en elle-même. Et ça, c'est très grave sur le plan spirituel. Parce que l'homme, disait le prophète, n'est jamais impur. N'est jamais impur. C'est le corps qui se met parfois dans une situation d'impureté, tout simplement. D'accord? Parce qu'elle ne peut pas manger avec son mari, elle ne peut pas dormir avec lui dans sa chambre. Elle s'isole, parce qu'elle est impure. C'est pour ça qu'elle ne peut pas lire la Torah, elle ne peut pas, etc. Alors l'islam est venu alléger cette pratique, justement, qui est lourde, et qui peut parfois, sur le plan théologique et philosophique aussi, parfois choquer. D'accord? Je l'ai dit souvent aux musulmans aussi, parce que le porc est considéré, la peau du porc est considérée comme impure. D'accord? Comme tous les animaux carnivores. Tous les animaux carnivores. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on se focalise sur le porc. Mais le porc en lui-même est un animal pur. D'accord? Le porc en lui-même est un animal pur et un animal d'une grande noblesse. Donc, ni l'animal, ni l'humain est impur. L'impureté, elle est matérielle. Donc, voilà, donc l'islam est venu alléger les lois bibliques pour les rendre beaucoup plus souples et beaucoup plus faciles à pratiquer. Et puis, vous avez l'aspect norme sexuelle alimentaire. Et là, vous avez, sur les 4200 versets, vous avez deux versets qui concernent les normes alimentaires. Et c'est là où ça m'attriste. En France, de résumer l'islam à une question de cantine scolaire. Est-ce qu'on peut manger ceci? Est-ce qu'on peut ne pas manger? Etc. Quand même une religion qui est venue lier le cœur de l'homme à Dieu, qui est venue lui permettre de transcender ce monde physique et vivre dans le monde de la spiritualité, un Coran qui a produit une civilisation dans tous les domaines, de la sociologie, de la physique, de la chimie, etc., qui a construit une civilisation, on va le réduire à une petite assiette, est-ce que je peux manger ça ou non? D'accord? Deux versets, qui parlent tout simplement pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de santé, c'est comme un médecin qui te dit, c'est pas bien de manger trop de viande. Il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. C'est ce qui dit le Coran, tout simplement. Ne mangez pas les animaux carnivores parce que c'est pas bien pour la santé. Ça se résume à ça, c'est une question de santé publique, tout simplement. On ne peut pas résumer une religion à une question de normes alimentaires. Mais il y a effectivement, comme dans la Bible, comme dans la Torah, ne mangez pas les animaux carnivores, tout simplement. Vous avez aussi la question du mariage, la question de l'héritage. Par contre, je vous donne une clé importante pour la compréhension de l'aspect loi, surtout dans le domaine social. D'ailleurs, vous le disiez, mon père, hier, par rapport à Saint Paul. Quand on lit les passages de Saint Paul sur la femme, on dit qu'il est misogyne, sexiste. Mais on oublie le contexte historique et anthropologique dans lequel les paroles de Saint Paul ont été dites. Saint Paul parle de l'égalité, vous l'avez dit mon père hier, de l'égalité homme-femme, mais il y a une situation sociologique où il traite avec cette réalité pour la changer. Donc effectivement, quand on lit le Coran, certains versets du Coran, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, y compris chez les musulmans, ils ont une approche fragmentée du Coran. On prend toujours un verset isolé du reste du Coran, isolé du contexte historique, etc. Et là, ça donne ces incompréhensions, voire même ce fanatisme, cet intégrisme. Donc d'abord, le Coran, concernant la question de la femme, affirme l'égalité, je l'ai dit au début, ontologique, dès les départs. Nous sommes égaux. Par contre, la réalité historique au VIe siècle dans lequel le Coran a été révélé est inégalitaire. C'est comme la France. Dans les années 40, on proclame l'égalité homme-femme. Et jusqu'à présent, on est encore dans des lois pour essayer Vous voyez. Donc, on affirme un principe et qui traite avec la réalité. C'est pour cela que vous trouvez, concernant surtout l'héritage, certaines lois du Coran qui sont inégalitaires. Comment se fait-il que la femme, que le garçon, la fille a moins que le garçon quand c'est question d'héritage? Parce que c'était dans des sociétés patriarcales, tout simplement. Si la société change, il faut revenir au principe dès le départ, qui est le principe de l'égalité. La même chose concernant les fameux versets aujourd'hui cités pour des raisons géopolitiques concernant les djihad, la fameuse sourate 9. Hein, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, l'islam est résumé à ça. Donc, il s'agit de versets contextuels parce que le verset de principe, c'est clair, c'est la paix. D'ailleurs, c'est étonnant, une religion où Dieu s'est défini comme étant un Dieu d'affection, un prophète qui définit son message et qui le résume par cette phrase et cette injonction coranique, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » On t'a envoyé comme une miséricorde, une affection pour l'humanité tout entière, et on réduit son message à une question de guerre et de conflit. Il y a un musulman qui termine sa prière tous les jours par « As-salam », la sérénité, la paix, et qui dit à tout le monde « As-salamu alaykum, la paix », on peut résumer sa religion à une question de guerre. Parce que il y a un chapitre du Coran qui s'appelle la sourate du repentir, que les terroristes appellent la sourate de l'épée, sourate Saif, ou ayat Saif. C'est quand même quelque chose de, même sur le plan du bon sens, ça ne tient pas. Comme dans la Torah, comme dans la Bible, dans l'Évangile, le Coran parle de guerre. D'abord, le mot jihad, et ça c'est connu, Mouna pour vous le dire, le mot jihad en arabe veut dire effort. C'est pas la guerre c'est le qitel. Et le Coran, ainsi, je peux vous donner d'ailleurs la référence, il insiste beaucoup sur le jihad qu'on fait contre nous-mêmes. Comme dans le christianisme, surtout chez les protestants, l'homme est foncièrement, et le mal est à nous, donc il faut faire les jihad pour combattre ce mal. L'islam dit le bien est en nous, mais on tend vers le mal. La jalousie, elle est en nous. La colère est en nous. La violence est en nous. L'homme est violent. D'accord? Mais la violence n'est ni positive ni négative. On l'a vu hier au séminaire. C'est, tout dépend de ce que tu fais de cette violence. Parfois, la violence est légitime, comme dit Max Weber. D'accord? Donc, le jihad, c'est d'abord comment orienter éthiquement ses passions et ses désirs qui nous habitent. Donc, c'est le combat contre soi-même. La jalousie est bonne, mais c'est une jalousie qui doit m'inciter à faire l'effort de faire comme l'autre, mais pas la jalousie de haine. D'accord? La violence est à nous, mais c'est une violence que je dois utiliser dans une situation de légitime défense. D'accord? Aujourd'hui, on est en train de reformer la loi en France pour dire qu'une femme qui se défend, une femme battue, c'est le débat d'aujourd'hui, qui, par légitime défense, tue son mari, est-ce que vraiment c'est un crime? On est dans une violence qui peut être, dans certains cas, compréhensible. D'accord? C'est pas la violence pour tuer, mais la violence pour se défendre. Donc c'est ça le djihad, c'est d'avoir l'effort. Et effectivement, ce verset parle d'Akitel, c'est-à-dire il dit au prophète. Et on oublie souvent, le verset ne s'adresse pas au prophète, ni aux musulmans. Il s'adresse à la communauté de Médine. D'accord. Pour ceux qui, ça on le fait en sciences politiques, Médine est une cité-état. Parce qu'à la Mecque, le prophète a passé 10 ans à la Mecque, Dieu ne nous a pas demandé d'agir et de se défendre. Kufu aydiyakum wa aqimus salat. Comme Jésus l'a dit, celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Parce que Jésus s'est trouvé dans la même situation. Mais vous savez très bien que dans la Bible, ou dans l'Évangile, à un moment donné, il a dit « Amenez-moi les épées ». Donc il peut se trouver, sauf qu'à la différence de Jésus, Jésus est né dans un empire. Le message de Jésus, dans un empire déjà fait. Le prophète est venu alors qu'il y a des communautés. Donc il a fondé un État. Donc il était à la fois prophète et chef d'État. Comme Salomon, comme David, comme tous les prophètes bibliques, le seul prophète qui n'a pas fait un état ou qui n'a pas eu le rôle de gérer un état, c'est Jésus. Parce que la mission d'un prophète n'est pas politique, n'est pas de gérer politiquement une communauté. Le message d'un prophète est éminemment spirituel. Mais les circonstances historiques ont imposé à certains prophètes de jouer ce rôle. Et la communauté qui faisait la guerre au son des djihad, c'est une communauté citoyenne à Médine, qui comprend les musulmans, les juifs et les polythéistes. Donc la guerre n'a pas été faite pour au nom de Dieu. Ce n'est pas une guerre pour imposer la foi. C'est une guerre pour se défendre. Et d'ailleurs le Coran dit dans Sourate 22, verset 39, « Autorisation a été donnée à ceux qui ont été massacrés. » Parce que dans une version en arabe, « Udhina lilladhina yuqatilun » et dans un autre verset, « Yuqattaloun » c'est-à-dire ceux qu'on a massacrés, de se défendre. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Si vous ne le faites pas, écoutez-moi très bien parce que c'est très important la suite. Si vous ne faites pas cette violence légitime, ce djihad au sens de guerre légitime, des ermitages, des synagogues et des mosquées seront détruites. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi il ne commence pas des ermitages? Parce que c'est les chrétiens. D'accord? Les synagogues et les mosquées seront détruites. C'est-à-dire que cette guerre menée par le prophète avec une partie de la communauté juive et des polythéistes, c'est pour garantir la liberté de conscience. Tout simplement. Et il l'a fait en tant que chef d'État, tout simplement. Voilà à peu près quelques pistes, quelques clés et quelques exemples concrets qui vous permettent un peu de comprendre la complexité de ces textes. Et je n'ai pas le temps d'aborder le deuxième texte qui est la Sunna des prophètes. Peut-être il y aura peut-être des questions sur ça. En tout cas, je vous remercie de votre attention et le débat est ouvert.
Bien, maintenant la parole est à vous, donc vous allez pouvoir...